Bonsoir. Un tir d'obus lancé à partir du Rwanda et visant un avion de chasse congolais a provoqué une panique hier mardi à Goma. Dans un bref communiqué, le gouvernement rwandais affirme avoir pris des mesures de défense à l'endroit d'un avion Sukhoi venant de la RDC qui a violé son espace. Kigali dit avoir pris ses mesures défensives à la suite de ce qu'il qualifie de troisième acte du genre. Depuis le début du mois, les autorités rwandaises concluent leur communiqué en demandant à Kinshasa d'arrêter cette agression. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement de la RDC dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la RDC, mais également dans la région des Grands Lacs. Comment analyser cette situation? Jusqu'où pensez-vous que cette crise entre la RDC et le Rwanda peut aller? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Pierre Virgence. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en République démocratique du Congo. Nous aurons aussi dans ce débat et devrait pouvoir nous rejoindre, me fait signe qu'il est déjà là, professeur Moïla Tiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Moïla Tiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Rigen Miviri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat et directeur à Ebouteli, structure partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC. À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Un tir d'obus lancé à partir du Rwanda et visant un avion de chasse congolais a provoqué une panique hier mardi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Dans un bref communiqué, le gouvernement rwandais affirme avoir pris des mesures de défense à l'endroit d'un avion Sukhoi venant de la RDC et qui a violé son espace. Kigali dit avoir pris ces mesures défensives à la suite de ce qu'il qualifie de troisième acte du genre depuis le début du mois. Les autorités rwandaises concluent leur communiqué en demandant à Kinshasa d'arrêter cette agression. La RDC, de son côté, a aussi réagi et c'est Alain Irung qui nous en parle.
Cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée mardi matin par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les FRDC. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes des militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibumba et Bwito en prévision d'autres actions criminelles, indique le communiqué. Le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs, au centre et à l'est du pays, le gouvernement congolais appelle l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement du M23, souligne le communiqué. Toujours selon ce communiqué, bien qu'étant engagé dans les différents processus de paix, le gouvernement congolais dit se réserver le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire.
Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo, République démocratique du Congo. Dans les tensions permanentes entre la RDC et le Rwanda ces dernières années, pensez-vous que l'épisode d'hier a fait passer à une étape supérieure, à une autre étape de cette tension?
Pour le peu que nous en sachions, nous qui ne sommes pas informés précisément des mouvements de cet avion, la question était de savoir s'il a à un moment donné survolé le territoire rwandais, ce qui est possible, parce que n'oublions quand même pas que l'aéroport, la piste de l'aéroport se trouve à 500 mètres de la frontière. Donc je veux dire, ce n'est pas impossible que dans les mouvements d'approche l'avion, notamment au sud, dans le lac, la courbe, je dirais, la ligne droite venant de la piste d'aéroport, elle traverse en fait la frontière rwandaise. Donc là, ce n'est pas impossible que c'est une fausse manœuvre du pilote qui ait fait qu'il ait un tout petit peu dépassé l'espace aérien rwandais. Donc ce genre d'incident est déjà arrivé, donc ça, on n'est pas dans quelque chose qui est une véritable escalade plus dure, mais ce qu'il y a, c'est que ça arrive évidemment tout de suite après une, je dirais, petite victoire des FARDC contre les troupes, je dirais, rwandaises ou rwandophones, comme on dit. Et donc là, on peut se dire que ça apparaît quand même comme un peu une logique d'escalade, mais ce n'est pas une très grosse escalade pour le moment. Donc je dirais, il faudrait d'abord raison garder. Et puis, il faut se dire aussi que voilà, l'état de belligérance n'est pas une solution pour deux voisins. La France et l'Allemagne ont mis 80 ans pour apprendre qu'il y avait moyen de vivre sans être en état de belligérance. Et parfois, il faut du temps, effectivement. Surtout alors, dans des situations plus connues que celle-ci.
Alors, le Rwanda et la RDC utilisent des mots qui semblent aller plutôt dans un sens un peu plus contraire hein, à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé dans cette première intervention. Le Rwanda parle de mesures défensives. Elle ne dit pas supplémentaires, hein, elle dit défensives. Je ne sais pas si c'est jusqu'ici nos interprétations qui ont pu peut-être enlever le mot supplémentaire. Mais le mot supplémentaire aurait pu montrer que il y a des mesures qui sont déjà prises. On l'imagine qu'il y a des mesures qui sont déjà prises. Mais si jamais le Rwanda s'arrête à des mesures de défense seulement, c'est comme si c'était ciblé juste pour cette violation entre guillemets de son espace, ce qui semble montrer que le Rwanda voudrait passer un message un peu plus précis, un peu plus intimidant à la RDC, et la RDC de son côté utilise aussi d'autres mots qui sont peut-être de l'échelle de l'escalade, action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Après avoir entendu ça, vous pensez que les deux pays n'ont pas franchi encore un cap qui peut être particulièrement dangereux?
Ben si, on frôle le cap dangereux, effectivement, je dirais, il faut pas faire comme s'il n'y avait rien qui s'était passé, mais je dirais, on sait que dans le discours des diplomates, on relaye parfois des positions d'intimidation qui n'empêchent pas qu'après on puisse faire une ouverture, mais en attendant, c'est une position d'intimidation. Je dirais, c'est très difficile d'interpréter au moment même. Les diplomates du Congo maintenant doivent effectivement bien réfléchir pour savoir ce qu'ils vont répondre, et les militaires congolais sont aussi en train de réfléchir, j'imagine, très intensément pour savoir comment ils vont répondre. Maintenant, les militaires y répondent sur le terrain, les diplomates y répondent à la fois en laissant agir les militaires et à la fois en ouvrant la porte pour négocier. Mais maintenant, effectivement, le ton n'est pas à ouvrir la porte, le ton est plutôt à montrer sa force des deux côtés. Voilà, les Congolais ont montré leur relative efficacité, vous l'avez rappelé dans votre message tout à l'heure, hier sur le terrain, et donc il est possible que le Rwanda ait fait une mesure de rétorsion légèrement indue. C'est très difficile de savoir précisément ce qui s'est passé à un kilomètre de hauteur, juste au-dessus de la frontière. Donc on ne sait pas si le Rwanda a un peu raison ou tout à fait tort, mais ce qui paraît clair, c'est qu'il n'y avait pas besoin de tirer sur un avion.
Est-ce que vous pensez que les deux pays, il y a quelque chose dans l'immédiat et peut-être dans les jours à venir, très rapidement, pourrait mettre les deux pays dans une phase moins inquiétante où ils pourront dialoguer, parler, et si c'est le cas, ils pourraient parler notamment sur quoi de manière assez urgente?
Il pourrait parler effectivement de la manière de vivre ensemble sur côte à côte, je dirais, avec un territoire dont l'un, je dirais, regorge de richesses, de matières premières que l'autre convoite et que l'autre exploite. Et donc voilà, il y a à partir de là, il y a peut-être moyen de négocier, mais c'est vrai qu'on ne négocie pas sans rapport de force. Et donc c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Le problème, c'est que si on lit aussi le dernier rapport de l'Office des Nations Unies sur les réfugiés, ben voilà, ça fait une catastrophe humanitaire, ça fait encore des centaines de milliers de gens qui sont sur les routes, et ça, l'ensemble des opérations depuis quelques mois sont des opérations qui font souffrir énormément de monde. Mais voilà, c'est vrai que les pays doivent apprendre à vivre ensemble, et c'est dans les rapports de force qu'ils le font. Donc ils font de l'intimidation, ils sont prêts à monter dans l'escalade, mais en même temps ils sont prêts à descendre dans l'escalade aussi. Et donc c'est ça qui est très difficile à juger maintenant, et ce que nous comme observateurs on peut faire, c'est prôner la désescalade, tout en disant qu'on comprend bien que chaque pays veuille se protéger et n'ait pas envie de se faire agresser par un voisin.
Politologue et professeur dans les universités de Liège, en Belgique, et de Boutembo, en République démocratique du Congo, Pierre Virgence, nous vous gardons dans ces débats. Moïla Tchiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Est-on dans un cap particulier, peut-être supérieur à ce qui s'est passé? Si oui, de quelle manière? Parce que entre la RDC et le Rwanda, il s'est passé précédemment des choses qui pouvaient être interprétées comme inacceptables entre les deux pays, et on n'avait pas encore jusqu'ici utilisé la terminologie que nous avons entendue depuis hier.
Ben, il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement de la terminologie. Il s'agit d'un incident très dangereux, dans la mesure où il a été tiré sur un obus, sur un avion militaire de la République démocratique du Congo.
Mais Moïla Tchiembe, déjà à ce stade, Moïla Tchiembe, oui, un avion militaire a été pris pour cible, mais en matière de pertes déplorables et inacceptables, les personnes jusqu'ici tuées par la présence des groupes armés soutenus, notamment, comme affirmé jusqu'ici par le Rwanda, et les déplacements des personnes, à mon avis, c'était beaucoup plus grave, non? Pourquoi, à votre avis, on a l'impression que, parce qu'un avion militaire a essuyé des tirs, cela est plus grave que ce qui s'est passé avant?
Ben, la gravité réside dans l'idée qu'il s'agit d'un acte de guerre. Dois-je rappeler le droit? Si vous regardez bien l'article 3, alinéa C, de la Convention de Chicago du 7-12-1944, relative à l'aviation civile internationale, il est stipulé ceci, je cite, « Aucun aéronef d'État, d'un État contractant, ne peut survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie d'accord spécial ou de toute autre manière et conformément aux conditions de cette autorisation. » Article 3, alinéa C. Alors, si il est avéré qu'un avion militaire congolais est entré sur le territoire du Rwanda sans l'accord de ce pays, la moindre des choses pour le gouvernement congolais, si c'est arrivé par erreur ou par une attention de pilotage, comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, la moindre des choses, c'est de présenter les excuses. Ça ne change absolument rien, ni à la qualité de la souveraineté de la RDC ou du Rwanda, ou encore moins à la volonté de paix que chaque pays peut manifester.
Professeur, si justement on n'est pas sûr parce qu'on pense que c'est une erreur de pilotage, comment le Rwanda, lui, a-t-il pu déterminer que, parce que le Rwanda dit que son espace a été violé, comment le Rwanda a-t-il pu déterminer avec autant de rapidité, plus que d'autres services, que son espace était effectivement violé?
Ben, nous disons que pour l'instant, on n'a aucune preuve matérielle. Comme observateur, nous n'avons pas de preuve matérielle que l'avion congolais militaire a réellement traversé la frontière du Rwanda. Mais objectivement, ce n'est pas exclu lorsque la frontière est à quelques dizaines, voire vingtaines de kilomètres, un pilote qui est, je ne sais pas, à 3000 mètres, je ne sais pas quelle altitude, peut ne pas savoir s'il est encore sur le territoire de la RDC ou s'il est sur le territoire du Rwanda entre la ville de Goma et l'ancienne ville de Gisenyi. C'est possible. On n'en a pas la preuve.
Oui, mais la République démocratique du Congo, oui, la République démocratique du Congo, dans sa réponse, semble certain que son avion n'a pas violé le territoire rwandais et a qualifié donc cet acte d'acte de guerre. Est-ce que les deux pays, en ce moment-ci, dialoguent correctement pour éviter l'inévitable?
Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les deux pays sont en train de jouer avec le feu, que ce soit la République démocratique du Congo, qui est l'objet, voici quelques mois déjà, de l'agression armée à travers le M23. Mon collègue a rappelé que les Nations Unies ont apporté la preuve que le gouvernement de Kigali est derrière. Ça, c'est un fait. Mais le gouvernement congolais a pris ce fait en disant « Nous voulons aller vers la paix, il faut négocier avec le Rwanda et aboutir à son retrait. » C'est toute la campagne, toute la diplomatie qui a été mobilisée, à laquelle aujourd'hui la diplomatie congolaise peut se vanter d'avoir, dans le premier temps, crié dans le désert, ensuite d'avoir obtenu l'adhésion ou à tout le moins la reconnaissance, fut-elle modeste, de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Union africaine, pour demander à Kigali d'arrêter les faits. Ça, c'est un fait. Mais il n'appartient pas au gouvernement congolais, même si son action est légitime, de faire monter les enchères. C'est-à-dire que si les deux pays, on n'a pas de doute que le gouvernement congolais recherche la paix, on peut aussi douter que le gouvernement de Kigali recherche la paix. Parce que si vous écoutez le président Kagame, c'est ce qu'il le répète à longueur de journée. Alors, si de deux côtés il y a volonté de paix, il ne sert à rien d'aller au bout de feu. Pourquoi? Parce qu'une guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit et comment elle finit. Dois-je rappeler que une des grandes puissances militaires du monde et nucléaire, la Russie, qui voulait prendre l'Ukraine en 2 semaines, est en train non seulement de peiner, de menacer même de faire l'usage de la force nucléaire. Donc, attention, attention. La légitimité du gouvernement congolais à partir de l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, tout le monde est en train de le reconnaître. Donc, c'est la raison qui est du côté du gouvernement congolais.
Peut-on considérer...
Le gouvernement congolais ne peut pas se tromper de chemin. Le gouvernement congolais doit savoir raison garder.
Professeur...
Aujourd'hui, l'opinion est en train de tourner en faveur de la RDC. Ce n'est pas le moment pour la RDC, comment dire, d'envenimer la situation. Si l'avion militaire a traversé réellement la frontière du Rwanda à l'insu des autorités congolaises et de leur commandement, il faut présenter les excuses, tout simplement. Ça ne sert à rien de vociférer. S'il y a eu erreur de pilotage, c'est l'honneur de la République démocratique du Congo de reconnaître qu'il y a eu erreur de pilotage et d'arrêter les trains.
Professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, Moïla Tchiembe, cet avion Sukhoi a d'une manière ou d'une autre pu franchir l'espace rwandais, on imagine bien que beaucoup d'autres avions, soit par erreur de manipulation ou dans l'ajustage de leur atterrissage, arrivent de temps en temps à commettre la même réalité. On se poserait alors la question, pourquoi le Rwanda n'a jamais protesté, même ne fût-ce que verbalement, pour dire que de plus en plus d'aéronefs congolais violent son espace et que ce serait bien que cela s'arrête, et que comme ça, du jour au lendemain, parce qu'un avion Sukhoi a survolé de près son territoire, et parfois même peut-être avec raison son territoire, il y a des représailles immédiates.
Mais vous savez que dans le communiqué de Kigali, il est spécifiquement rappelé que c'est la troisième fois que le territoire rwandais a été violé. Nous n'avons pas la preuve de cette violation. Mais lorsqu'on s'en tient à la déclaration, pour Kigali, c'est la troisième fois. Alors, si c'est la troisième fois, il est tout à fait légitime que le gouvernement qui a supporté 3 fois puisse demander le compte à l'autre gouvernement. Mais en vérité, si vous écoutez bien ce que je veux dire, l'intérêt des deux pays, ce n'est pas de faire monter les enchères. Ce sont 2 pays voisins, on a 2 populations communes qui parlent la même langue, qui partagent la même religion, qui partagent les mêmes cultures. Ça fait des années que ces pays coopèrent, les populations coopèrent. C'est vrai qu'il y a le malentendu sur le M23 et depuis bien longtemps avec tout ce qui concerne les Banyamulenge congolais Banyarwanda, c'est connu. Quel est l'intérêt des deux pays? C'est que les choses s'arrangent et qu'on trouve une solution négociée. Donc il ne sert à rien vraiment de jouer au matamor, parce que si la guerre éclatait entre les deux pays, on ne connaît pas les conséquences. Peut-être la première serait, aujourd'hui la République démocratique du Congo a réussi à avoir le soutien des pays de la région, c'est-à-dire le Kenya, l'Ouganda, le Burundi. Et pensez-vous que demain, si par maladresse, le Rwanda considérait qu'il s'agit d'une guerre et que la guerre commençait entre les deux pays, pensez-vous que la RDC aurait le soutien de ces trois pays? On n'en sait rien.
Merci.
Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Angola qui se sont mobilisés dans ce dialogue, si demain il advenait qu'il y a une volonté de nuire ou d'agression avérée, pensez-vous que la RDC aura le soutien de ces pays? Non, ça ne sert à rien vraiment de baisser la tête si réellement il y a eu méconnaissance, erreur de pilotage. C'est à l'honneur du gouvernement congolais
de le reconnaître
qu'il y a eu erreur et de demander
de présenter ses excuses.
Ça ne coûte rien.
Merci, professeur.
Si le gouvernement de Kigali trompe, ment ou dit des choses qui ne sont pas vraies, vous savez, on a de grandes puissances dans le monde qui ont des satellites partout. Vous apprendrez les jours qui viennent qu'il n'en a rien été, que le gouvernement, l'avion militaire congolais n'a pas franchi le territoire du Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda qui peut voir à travers le ciel ce qui se passe.
On le saura.
Attendons voir.
Merci, professeur.
Oui, on le saura. Demandons aux deux parties de savoir et raison diable.
Merci, professeur Moïla Chiemberi Guen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, structure partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC. Alors, vous avez entendu, comme nous, beaucoup de conditionnels employés par les deux premiers intervenants au sujet de violation ou pas violation de l'avion congolais de l'espace rwandais. Qu'est-ce que vous en savez à ce stade et avec les vocabulaires utilisés par les deux côtés, avez-vous l'impression qu'on a franchi un cap dans la tension entre les deux pays, le Rwanda et la RDC?
Avec les informations à notre disposition, nous ne sommes pas en mesure de savoir si oui ou non il y a eu violation de l'espace aérien rwandais. Toutefois, nous avons des informations montrant que la frappe a eu lieu dans l'espace congolais. Donc, on ne saura pas. Jusqu'à maintenant, en tout cas, avec certitude, ce qui s'est passé concernant ce que avance le gouvernement rwandais. Mais et ça, on peut même le voir sur les vidéos, et il y a plusieurs témoins qui ont vu que la frappe a eu lieu au moment où l'avion était déjà au-dessus de la ville de Goma. Ça, on peut le dire avec beaucoup plus de précision.
Alors, concernant, ayant reçu cette information que vous nous partagez, pensez-vous que le Rwanda, si jamais il avait raison que l'avion a violé son espace, pensez-vous que le Rwanda est au courant que au moment du déclenchement de la frappe, c'est plutôt la frappe qui a franchi le territoire de la RDC et pas la frappe qui a suivi l'avion encore dans l'espace territorial rwandais?
On ne peut pas savoir, et ça c'est une question à poser directement aux Rwandais, mais dans tous les cas, la réaction rwandaise elle est disproportionnée, parce que avant même de prendre une si mesure radicale, il a fallu d'autres préalables, et ça, la doctrine et les usages au niveau international le montrent. Il y a toujours communication avec l'aéronef, surtout si on suppose qu'il a violé votre territoire. Et donc, il y a quand même une procédure derrière, et je pense que cette mesure était radicale, surtout si on considère que c'est un avion qui était au-dessus d'une ville peuplée comme Goma, et donc c'était une mesure très dangereuse, et qui pourrait déclencher quelque chose
d'inquiétant.
D'inquiétant pour toute la région, et pas seulement pour la population de Goma, mais aussi pour la population de Gisenyi. Il faut rappeler que Goma et Gisenyi, ce sont deux villes jumelles, et donc la frontière, elle est moins de 10 mètres entre les deux villes. Bien sûr, il y a des dégâts qui peuvent arriver de toutes parts de la frontière. Donc c'était dangereux, et ça dit beaucoup sur le contexte et sur la nature des tensions entre le Rwanda et la RDC actuellement.
Alors, est-ce que on sait si à ce stade, on a beaucoup entendu parler de ces avions Sukhoi. Je ne sais pas s'ils sont nombreux ou c'est le même toujours qui fait les mêmes manœuvres de manière régulière. Il a déjà été beaucoup communiqué des manœuvres des Sukhoi dans ce périmètre entre la RDC et le Rwanda. À ce stade, pouvons-nous savoir que cherchent les manœuvres de ces Sukhoi? Pourquoi ces Sukhoi congolais sont toujours dans les encablures de l'espace territorial rwandais?
Voilà, déjà, il y en a deux. Il y a des avions militaires qui survolent cet espace. Et on le voit depuis plusieurs semaines. Et ils ont déjà été en activité dans la zone d'opération contre le M23. Et pour parler de la partie sur laquelle ces avions passent, c'est la même partie sur laquelle tous les autres avions, même les avions civils, passent. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui est à Goma, ce n'est rien d'étrange, parce qu'on sait tous que les avions qui vont atterrir à l'aéroport de Goma passent par le lac Kivu et ils vont passer au-dessus de l'hôtel Iwusi, ou sinon l'hôtel Serena, et puis ils vont passer au-dessus de la ville jusqu'à la piste de l'aéroport. Donc c'est un trajectoire connu de tout le monde, et tous nous voyons les avions passer par là. Alors, bien sûr, c'est à quelques mètres de la frontière rwandaise. Il y a même des pilotes qui ont affirmé, des experts qui ont affirmé qu'il arrive même que des avions, même civils, passent sur l'espace aérien rwandais.
Mais que cherche, dans ce cas échéant, il
communique avec le Rwanda pour signaler leur présence dans cet espace. Donc voilà,
à ce stade,
tout simplement, on ne voit pas quelque chose de nouveau. Maintenant, sur le rôle de ces avions, on imagine qu'ils vont dans la zone en opération, parce qu'il faut rappeler aussi qu'en même temps que cet incident s'est passé là-bas, il y avait des opérations à Kichanga. Donc, il y a eu des affrontements entre le FARDC et le M23 autour de Kichanga. Et même aujourd'hui, il y a encore des affrontements autour de Kichanga.
Merci, Rigen Maviri, avocat et chercheur à Ebouteli Structure, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. Nous avons déjà ouvert le standard pour les auditeurs, et le professeur Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en République démocratique du Congo. Pour vous, nous allons écouter ensemble le point de vue de cet auditeur de Kinshasa. Ensuite, vous pourrez donner votre point de vue.
Alphonse Tefou, depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que le gouvernement congolais doit cesser de se plaindre, car toutes les voies ont été usées sans suite favorable. Et sa bonne foi n'est pas à démontrer. Cependant, le gouvernement congolais doit tirer conséquence de toutes les attaques de l'armée rwandaise et lancer une offensive pour en découdre une fois pour toutes, car trop c'est trop. Du jour le jour, nous perdons et plairons les nôtres.
Professeur Virgence?
Oui, ça me semble d'abord dangereux militairement, parce que d'après ce qu'on sait, l'armée rwandaise est une armée très organisée. C'est probablement une des plus fortes de l'Afrique centrale. C'est une armée qui a de longues années de combat derrière elle. Et donc, je dirais, si l'armée congolaise, avec toutes les des difficultés hein, qu'on a vues sur le plan logistique, etc., pour organiser la contre-offensive vis-à-vis du M23 fait face à l'armée rwandaise, c'est pas sûr du tout que le Congo va gagner. Je veux dire, si c'est comme si un boxeur amateur allait rencontrer un boxeur professionnel, en quelque sorte. Je veux dire, attaquer le M23, c'est une chose, attaquer directement les forces armées rwandaises, ça paraît quand même beaucoup plus risqué, d'une part. Et d'autre part, sur le plan du droit international, ce n'est pas parce qu'il y a eu un excès éventuel, hein, puisqu'on, comme vous le rappelez, on n'en sait toujours rien, un excès de la part du Rwanda en tirant de façon un peu indue, puisque normalement, quand on fait de la légitime défense, on reste quand même sur son propre territoire, que le Congo peut répliquer en dépassant aussi le droit international. Il peut répliquer en défendant son territoire, mais pas en allant sur le territoire de l'ennemi, en principe. Donc, en termes de droit international, il se mettrait dans le tort, et en termes d'efficacité militaire, il prendrait des gros risques.
Merci, professeur Pierre Virgens, politologue et professeur dans les universités de Liège, en Belgique, et de Boutembo, en République démocratique du Congo. Moïla Tchiembe, professeur d'université également et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Pour vous, nous allons écouter cet auditeur de Boutembo.
Je suis Josué Kakule Mutseke et j'interviens depuis Boutembo. La chronologie des faits dans cette crise démontre suffisamment que la RDC fait face à une guerre injuste lui imposée par son voisin de mauvaise foi. Toutes les tentatives de résolution pacifique de ces conflits se révèlent vaines, pour cause la mauvaise foi d'une partie. De ce fait, la RDC n'a autre voie que de capitaliser la levée de l'embargo sur l'achat des armes pour donner les moyens aux FARDC pour leur permettre d'imposer la paix. Le respect des pays repose sur la capacité de ses services de sécurité à protéger son territoire national.
Professeur Moïla Tchiembe, votre réaction?
Ben, on peut dire qu'il y a une certaine logique dans le sens que chaque fois que la souveraineté de la République démocratique du Congo est menacée et celle de ses populations, le seul recours légitime, c'est sa capacité de sécurité et de défense, qui est l'armée. Évidemment, tout le monde connaît les problèmes de FARDC. Il ne sert à rien d'y revenir là-dessus. Notre collègue vient d'indiquer ce que tout le monde sait. Alors, cette armée qui a été remodelée, il y a eu des réformes, mais qui n'a pas encore la capacité maximale. Dans le propos de ce compatriote, il y a le souci de reconnaître l'histoire et les problèmes de la RDC avec le Rwanda. Je n'y reviens pas. Mais ce qui est pertinent dans son propos, c'est de dire que l'avenir de la sécurité en République démocratique du Congo ne peut être assuré que par son armée. Donc, cette armée est en construction. Tout le monde connaît ce qui a été fait de positif et ce qui reste en termes de difficultés, de seuils à franchir pour lui permettre d'avoir une capacité de sécurité et de défense maximale. C'est là, effectivement, qu'il faut mettre les paquets, mettre les moyens pour que ces soldats, demain, soient en même de défendre l'intégrité du territoire et de défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. Rigen Maviri, avocat et chercheur à Ebouteli, structure partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Pour vous, ce commentaire qui nous vient de cet auditeur de Goma.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron, depuis la ville de Goma. Jamais la RDC ne cessera de subir les attaques du Rwanda aussi longtemps que les autorités congolaises n'ont pas encore pris les mesures appropriées, à l'occurrence la déclaration de la guerre pure et simple. L'ajustement du Rwanda hier soir à l'égard de l'avion de chasse congolais est un signe vocal et à tue-tête attestant qu'il nous veut la guerre. L'article 51 de la Charte des Nations Unies liant et les Rwanda et la RDC précise que la légitime défense ne s'exerce que si l'État qui en est l'objet a subi une agression armée, ce qui n'est pas le cas. Enfin, nous invitons les autorités congolaises à se passer de la passivité et l'inertie dont elles font preuve, car le peuple en souffre. Comme les longs pourparlers diplomatiques sont restés infructueux, place alors aux choses sérieuses. française, pour autant que l'est du pays ne soit plus à la merci des actes d'exaction dont il est victime.
Alors, de plein de réactions que nous avons eues hein, de nos auditeurs sur cette émission, nous avions eu du mal à trouver des gens qui ont pu avoir un avis différent, comme vous l'avez entendu ce soir, pas de manière délibérée. De nombreux Congolais se sont montrés particulièrement virulents hein, sur ces incidents. Quelle est votre réaction, Rigen Miviri?
Oui, je comprends en fait le désarroi de notre compatriote, mais aussi je comprends le fait que les sentiments de beaucoup de Congolais et de dire que la partie diplomatique ou les démarches diplomatiques n'ont pas réussi. Toutefois, je ne suis pas sûr que la solution soit d'aller en guerre contre le Rwanda, en tout cas pas pour l'instant, mais plutôt peut-être pour le Congo de se concentrer sur la sécurisation de son territoire, et c'est notamment ce qui se passe aujourd'hui avec le M23, par exemple à Kichanga, à Tshishe, à Tongo, et partout où il y a des opérations qui sont en cours. Normalement, on ne peut pas empêcher à l'armée congolaise d'assurer l'intégrité du pays et de se défendre. Et je pense que pour l'instant, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur terrain que je vois mal que le Congo puisse s'engager aussi directement dans un front contre le Rwanda. Et surtout, quand les gens parlent de Goma et de Gisenyi, il faut se rappeler qu'en fait, c'est des territoires qui sont côte à côte. Tout ce qui peut avoir comme affrontement sur cette zone ici aura des incidences et surtout beaucoup de victimes sur les territoires. Donc oui, l'État congolais a le devoir et le droit de défendre sa population et d'assurer la protection de l'intégrité territoriale. Et c'est ce qui devrait être fait, et c'est pour ça que le gouvernement congolais devrait fournir encore plus d'efforts et beaucoup de moyens dans cette mesure-là. Mais en même temps aussi, il est important qu'une pression continue à être mise sur tous les pays qui interviennent dans les conflits ici, et notamment le Rwanda, pour qui il y a de preuves qu'il soutient la M23 et qui, déjà depuis très longtemps, il y a eu des pressions pour qu'ils cessent de soutenir la M23. Et je pense que c'est une démarche et c'est une responsabilité pour la communauté internationale.
Dialogue entre Congolais de ce soir a débattu sur le tir hier hein, sur un avion militaire de la République démocratique du Congo par le Rwanda et la réaction de ces deux pays. Et puisque nous sommes en train de conclure cette émission, Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en République démocratique du Congo. Est-ce que il y a d'autres issues en plus de ceux qui ont déjà été évoqués jusqu'ici depuis le débat, depuis le début des tensions entre les deux pays? Et autre question, c'est est-ce que le Rwanda n'est pas en train de surfer justement sur cette rétention qu'éprouve tout le monde de ne pas aller directement dans les conflits armés violents?
Ben, c'est clair que le Rwanda est en train de jouer systématiquement de la provocation et en même temps il se retient au dernier moment pour ne pas violer trop visiblement le droit international. Donc là, il joue sur, je dirais c'est arrivé souvent hein, de la part du Rwanda, il joue sur les règles, il est en train de violer l'esprit du droit international, mais en même temps de respecter un peu les certaines formes. Donc maintenant, je pense qu'effectivement, la solution à cette montée en tension actuelle réside dans la négociation. Et je comprends très bien les compatriotes congolais qui sont évidemment énervés par, je dirais, tout ce qui s'est passé durant les 30 dernières années et de la montée en puissance du Rwanda au détriment de la RDC. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai qu'il faut bien prendre la mesure des risques en termes de droit et en termes militaires, et savoir que voilà, on ne sait jamais où une mesure militaire peut s'arrêter.
Alors, tout le monde souhaite que la désescalade puisse arriver le plus tôt possible, mais vous, en regardant ce qui s'est passé jusqu'ici et ce qui vient récemment d'avoir lieu, vous pensez que cette fameuse désescalade, elle est plus proche d'arriver dans les jours qui viennent, vu l'étape qu'on vient de franchir, ou il y a encore d'autres étapes qui peuvent arriver avant la vraie désescalade, si jamais elle doit arriver un jour?
Ben non, je pense que ça n'a pas l'air d'être pour l'immédiat. Mais notre collègue Reagan vient d'ajouter aussi un argument intéressant, c'est le fait que si l'armée congolaise se renforce effectivement dans la lutte très locale contre des rebelles, eh bien là, il est tout à fait possible, effectivement, qu'elle diminue la capacité de nuisance du Rwanda. Et je dirais, c'est par une montée en puissance sur son propre territoire, je dirais, de la RDC, qu'elle peut se légitimer et, je dirais, faire un peu peur au Rwanda et faire réfléchir le Rwanda avant qu'il ne monte d'un cran dans l'agressivité. Et donc, je pense effectivement qu'il faut à la fois améliorer le fonctionnement de l'armée congolaise et à la fois ouvrir les portes diplomatiques.
Merci Pierre Virgence, politologue et professeur de l'université de Liège en Belgique et de Butembo en République démocratique du Congo. Moïla Tchiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Quel est, selon vous, ce qu'on peut retenir de nos débats de ce soir?
Ben, ce qu'on peut retenir, c'est à peu de choses près, comme mon collègue vient de dire. C'est-à-dire... le règlement pacifique des différends est le seul credo du droit international. C'est ça qui fait la force de la République démocratique du Congo depuis. Alors, je comprends, comme tout le monde, la déception des Congolais de voir depuis une vingtaine d'années l'arnaque du Rwanda, probablement de propos un peu ou injurieux ou insinuant la faiblesse du Congo, etc. C'est tout à fait légitime d'entendre les réactions des Congolais. Mais attention, il faut savoir raison garder. Les dirigeants d'un pays ne peuvent pas se fermer les yeux et courir derrière l'opinion de la population. La population peut être éduquée, peut être orientée. Autrement dit, apparemment, beaucoup de Congolais pensent qu'on perd le temps avec la diplomatie. Non, la diplomatie est la voie royale des règlements des différends selon la Charte des Nations Unies. C'est à l'honneur du gouvernement congolais d'avoir mis le cap sur la diplomatie. Que se serait-il passé si le gouvernement congolais s'était aventuré militairement sur le territoire du Rwanda? Les mêmes Congolais auraient d'autres choses à dire si tel était le cas. Alors, le deuxième aspect, c'est que l'avenir de la sécurité de la RDC réside dans son armée. Alors, il faut souhaiter que le budget de l'armée qui a été augmentée sensiblement par le gouvernement soit tenue et que les moyens de l'armée soient réellement déployés pour les soldats, leur formation, leur équipement, leur entraînement, leur logement, leur solde. C'est ça qui permettra dans 3, 4, 5, 10 ans à la République démocratique du Congo de faire face. Et en plus, la légitimité de la RDC. La RDC emploie son armée, les FARDC, sur son territoire national, attention. Les M23 sont sur le territoire de la République démocratique du Congo. La RDC ne fait pas la guerre au Rwanda. Elle combat les terroristes du M23 sur le territoire national. Donc la légitimité est du côté du gouvernement congolais. Il ne faut pas que les Congolais et le gouvernement se trompent de chemin. Si combat il y a, les combats doivent être menés sur le territoire de la République démocratique du Congo contre les mouvements rebelles et terroristes. C'est cela la vocation de l'armée nationale. Et non pas d'aller s'aventurer en guerre contre le Rwanda.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. Rigen Maviri, avocat et chercheur à Ebouté, les structures partenaires de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ce qu'il faut retenir, serait peut-être de dire que autant que le gouvernement congolais doit agir avec responsabilité, autant il doit être ferme et efficace, parce qu'en réalité, c'est sur son territoire où se passent ces conflits et ce sont des civils congolais qui sont en train de perdre leur vie. Et donc, l'État congolais doit prendre encore plus de mesures, en fait, pour assurer la protection des civils, mais aussi pousser la communauté internationale pour que, en fait, le Rwanda puisse aussi, en fait, être tenu responsable pour les actes qui lui sont reprochés, notamment les soutiens au M23. Mais ça, ça ne va pas, dans tous les cas, disculper le Congo de sa responsabilité première, qui est celle de protéger sa population, d'assurer un avenir meilleur pour sa population. Ça, c'est le Congo qui doit le faire.
Merci à tous. Polydor Basunga, Kéline Kouté, Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais de ce soir, c'est fini. Merci de votre attention. Au revoir.